nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balade. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qu'il engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 26 février 2024. Comme à l'accoutumée, je vais vous présenter le journal d'information suivi d'un commentaire politique qui aide Israël à contourner le blocus de la mer Rouge imposé par le Yémen. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran condamne les raids aériens américano-britanniques sur le Yémen. Une base israélienne a été visée par les missiles du Hezbollah. Et après le Niger, la CEDEAO va lever certaines sanctions contre le Mali et la Guinée. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné les nouvelles frappes aériennes arbitraires des États-Unis et de la Grande-Bretagne sur le Yémen, affirmant que ces raids prouvaient une fois de plus que Washington et Londres sacrifiaient la sécurité internationale au profit des intérêts d'Israël. Nasser Kanani a fait ses remarques dimanche 25 février après que les forces américaines et britanniques ont mené une série d'attaques aériennes contre des positions à travers le Yémen, y compris dans la capitale Sanaa. De telles attaques arbitraires et aventureuses contreviennent aux règles et principes internationalement reconnus et violent la souveraineté et l'intégrité territoriale du Yémen, a-t-il déclaré. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont prouvé une fois de plus qu'ils soutiennent pleinement les crimes de guerre et le génocide commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et qu'ils font passer la sécurité et les intérêts illégitimes du régime occupant avant la paix et la sécurité internationale. Nasser Kanani a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni ont montré qu'ils violent tous les principes moraux et humains ainsi que le droit international et la Charte des Nations Unies. Il a ajouté que Washington et Londres cherchaient à élargir la portée de la guerre, à détourner l'opinion publique des crimes de guerre commis par Israël, à faciliter la poursuite du génocide infligé aux Palestiniens. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a déclaré que la crise humanitaire actuelle dans la bande de Gaza est un désastre provoqué par l'homme, appelant à des mesures urgentes pour acheminer l'aide aux territoires assiégés. La dernière fois que l'UNRWA a pu livrer une aide alimentaire au nord de Gaza, c'était le 23 janvier, a rappelé le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, sur la plateforme de médias SocioX. Depuis, avec d'autres agences des Nations Unies, nous avons mis en garde contre une famine imminente. Nous avons appelé à un accès humanitaire régulier et déclaré que la famine peut être évitée si davantage de convois alimentaires sont autorisés à entrer régulièrement dans le nord de Gaza, a-t-il entériné. Lazzarini a cependant ajouté que les appels de l'agence à envoyer de l'aide alimentaire ont été ignorés. Il s'agit d'un désastre provoqué par l'homme, a-t-il regretté. La famine peut encore être évité grâce à une véritable volonté politique visant à garantir l'accès et la protection à une aide significative. De nombreuses agences humanitaires expriment de plus en plus leur inquiétude quant à la situation catastrophique des habitants dans la bande de Gaza qui s'enlise dans la guerre génocidaire d'Israël. L'ONU a souvent mis en garde contre une famine généralisée et imminente à Gaza. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a décrit la situation dans le territoire sous blocus comme des niveaux de désespoir sans précédent. Une organisation de défense des droits de l'homme basée à Genève affirme que le régime sioniste a transformé un couloir prétendument sûr par lequel les habitants de Gaza peuvent se rendre vers le sud en un piège pour tuer les Palestiniens déplacés. Dans un rapport publié ce dimanche 25 février, Euromed Human Rights Monitor a déclaré avoir documenté le meurtre de civils palestiniens par les forces israéliennes au point de contrôle de Wadi Gaza, vallée de Gaza, après qu'ils ont été forcés de fuir la ville de Gaza vers la région d'Al-Mawasi au sud de l'enclave. Les forces israéliennes ont également ciblé des civils qui attendaient des camions d'aide près du point de contrôle, a ajouté l'organisme de défense des droits de l'homme. Selon Oromed, les forces israéliennes ont tué au moins 30 Palestiniens dimanche soir alors qu'ils attendaient des camions d'aide près du rond-point d'Al-Nablusi. dans la rue d'Al-Rachid, au sud-ouest de la ville de Gaza. Ces observateurs ont documenté des témoignages horribles sur des chars israéliens tirant des obus et des balles d'artillerie sur plus de 300 civils, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, jeudi dernier, alors qu'ils tentaient de fuir la ville de Gaza vers le sud de la vallée de Gaza. Le Hezbollah libanais a annoncé ce lundi matin 26 février avoir lancé une attaque de missiles contre une base de l'armée israélienne dans le nord des territoires occupés. Selon le site d'information Al-Manar, le Hezbollah libanais a annoncé dans un communiqué que dans le cadre de son soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, il a tiré des missiles ce lundi matin en direction d'une base militaire israélienne sur le site d'Al-Bardadi, au nord des territoires occupés. Dimanche soir, à 19h50, des combattants du Hezbollah ont lancé une roquette Burkan de gros calibre sur le site militaire israélien de Marj, où étaient déployés des soldats israéliens. De même, la résistance islamique au Liban a confirmé dimanche avoir attaqué avec un missile Falahran la base israélienne Zabdin dans les fermes occupées de Sheba. En outre, le mouvement a annoncé dans un communiqué que ses combattants avaient pilonné la base militaire Ramim dans le nord de la Palestine occupée, dit Israël. Les avions de combat israéliens ont ciblé la zone autour de la ville d'Al-Daïra, située au sud du Liban. Le Hezbollah et Israël se livrent quotidiennement à des échanges de tirs transfrontaliers depuis que le régime de Tel Aviv a déclenché une guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023, après que les groupes de résistance palestiniens ont mené une opération historique contre l'entité usurpatrice en représailles à ses atrocités accrues contre les Palestiniens. L'armée israélienne menace d'étendre ses opérations meurtrières du nord de Gaza vers Rafah, la ville la plus au sud de cette zone, où se sont réfugiés près d'1,5 million de Palestiniens déplacés. Le régime occupant a jusqu'à présent tué au moins 29 782 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 70 043 autres. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé dimanche qu'elle lèverait les sanctions financières et économiques contre la Guinée et supprimerait les restrictions imposées au recrutement de Maliens à des postes professionnels par les États membres. La CEDEAO a annoncé la levée de certaines sanctions qu'elle avait imposées entre 2020 et 2023 à la Guinée et au Mali. Cette décision intervient juste un jour après que des mesures similaires ont été prises pour le Niger, convenues lors d'un sommet d'urgence de samedi pour le bloc. Les trois pays ainsi que le Burkina Faso ont vu leur adhésion suspendue plus tôt à la suite de coups d'État militaires qui ont conduit à la mise en place de nouveaux gouvernements. En 2022, les sanctions économiques et financières ont été levées contre le Mali, qui a connu des coups d'État en 2020 et 2021 suite à l'annonce par l'armée d'un calendrier de transition pour restaurer la gouvernance civile. Plusieurs sanctions imposées au Niger, notamment une zone d'exclusion aérienne, des fermetures de frontières et des gels d'avoir, ont été levées samedi par le bloc pour des raisons humanitaires. Toutefois, des sanctions politiques individuelles sont toujours en vigueur. Immédiatement après que le coup d'État au Niger ait renversé le président soutenu par l'Occident, la CEDEAO a gelé les avoirs du pays, imposé des sanctions à ses dirigeants et donné un sévère avertissement d'une intervention militaire si l'ancien gouvernement n'était pas rétabli dans un délai d'une semaine. En conséquence, et après des décennies de souffrance sous le colonialisme français et voyant désormais le rôle de Paris dans la poussée de la CEDEAO à attaquer leur pays, les nouveaux dirigeants du Niger ont stoppé les exportations d'uranium et d'or vers l'Europe, révoqué tous les accords militaires avec la France et bloqué les plateformes médiatiques françaises France 24 et RFI. Le Mali et le Burkina Faso, qui ont également quitté le bloc, se sont opposés vivement à la menace d'une intervention militaire contre le Niger, affirmant qu'ils la considéraient comme une déclaration de guerre contre leurs nations respectives. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont déclaré en janvier leur sortie rapide de la CEDEAO, quelques mois seulement après avoir annoncé la formation de l'Alliance des États du Sahel. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. milliers d'Israël à contourner le blocus de la mer Rouge imposé par le Yémen. Le régime israélien a récemment cherché à modifier ses routes commerciales en Asie de l'Ouest avec l'aide de certains États arabes pour importer des marchandises et des armes, contournant ainsi le blocus de la mer Rouge imposé par le Yémen. Cela intervient au milieu d'une série d'attaques menées par l'armée yéménite contre les navires liés à Israël dans la mer Rouge depuis le 7 octobre, lorsque le régime de Tel Aviv a lancé son attaque génocidaire contre les Palestiniens à Gaza. Les attaques ont contraint de nombreuses compagnies maritimes prestigieuses à éviter cette voie navigable stratégique, infligeant un coup dur aux artères financières du régime sioniste. Selon diverses informations corroborées par des responsables israéliens, le régime s'est tourné vers une route commerciale alternative contournant la mer Rouge avec l'aide des Émirats arabes unis, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite. Un récent reportage diffusé par la 13e chaîne israélienne a mis en lumière une nouvelle approche révélant que les navires partent désormais de Dubaï aux Émirats arabes unis, traversant l'Arabie saoudite et la Jordanie pour finalement atteindre le pont du Jourdain dans les territoires occupés. Cette stratégie adaptative démontre le besoin essentiel d'Israël en biens et en armes face au blocus imposé au régime occupant par le pays le plus pauvre du monde arabe, le Yémen. Alors, quelles entreprises sont impliquées dans le projet israélien de contournement de la mer Rouge? Selon la 13e chaîne, des camions transportent des marchandises en provenance des Émirats arabes unis traversant l'Arabie saoudite par des itinéraires désignés jusqu'à atteindre la Jordanie pour finalement entrer dans les territoires occupés via le passage du Jourdain et se diriger vers Haïfa. Les marchandises transitent par l'Arabie saoudite, même si Riyad n'entretient aucune relation diplomatique avec le régime de Tel Aviv, suscitant la colère et l'indignation des militants pro-palestiniens du monde entier. En réponse aux défis posés par les navires de guerre américano-britanniques dans la mer Rouge et le canal de Suez, les sociétés danoises Maersk, Hapag Lloyd et BP ont temporairement suspendu l'envoi de navires sur cette route commerciale clé. Le régime israélien vise à diversifier les itinéraires, élabore des plans pour permettre le transfert terrestre de marchandises depuis l'Inde via Abu Dhabi, réduisant ainsi les délais d'expédition, a annoncé la ministre indienne des Transports et de la Sécurité routière, Miri Regev, en janvier dernier. La route terrestre devrait réduire les délais de livraison de 12 jours, a déclaré Regev. Cependant, la semaine dernière, le principal syndicat maritime indien a déclaré qu'il ne chargerait ni ne déchargerait de cargaisons armées destinées aux territoires occupés palestiniens. Les travailleurs portuaires, qui font partie des syndicats, s'opposeront toujours à la guerre et aux meurtres d'innocents comme des femmes et des enfants, a déclaré la Fédération indienne des travailleurs du transport par eau, qui représente 3500 travailleurs de 11 principaux ports indiens. La récente attaque israélienne contre Gaza a plongé des milliers de Palestiniens dans d'immenses souffrances et pertes. Des femmes et des enfants ont été réduits en miettes pendant la guerre. Les parents ne parvenaient pas à reconnaître leurs enfants tués dans les bombardements qui explosaient partout. Pendant ce temps, l'armée yéménite poursuit ses opérations contre les navires liés au régime israélien. À l'exception des navires appartenant aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont bombardé le Yémen à plusieurs reprises le mois dernier, de nombreux navires ont traversé la mer Rouge en toute sécurité, en diffusant aucune relation avec Israël sur leur système d'identification, selon les autorités yéménites.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. La France est sous pression pour ses ventes d'armes à Israël. Alors, en moyenne, Paris vend pour 20 millions d'euros par an de composants militaires à Israël. Ces exportations rendent la France complice des violations des droits internationaux, du droit international et conventions internationales, du droit humanitaire commises dans la guerre, dans l'agression, mieux dire, israélienne contre Gaza. On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts. Tout de suite, reste avec nous.
Les partis d'opposition et les militants ont appelé le gouvernement français à reconsidérer ses ventes d'armes à Israël, qui mène une guerre génocidaire dans la bande de Gaza assiégée. Ils ont encouragé Paris à suivre l'exemple d'autres pays européens qui ont suspendu leurs exportations d'armes vers Israël en raison d'inquiétudes concernant la situation humanitaire sur le terrain, a rapporté jeudi France 24. La société française Eurofarad fait face à des accusations de complicité de crimes de guerre contre les Palestiniens en France. L'entreprise a été rachetée en 2015 par Exelia Technologies. Les troupes israéliennes avaient utilisé des missiles Eurofarad pour tuer les enfants palestiniens de la famille Schuiber. La section spécialisée en crimes contre l'humanité a ouvert une enquête pour des soupçons de complicité de crimes de guerre devant le tribunal judiciaire de Paris. Et l'été dernier, plusieurs membres de la famille Schuiber ont été entendus.
Retour au plateau du débat d'aujourd'hui consacré aux ventes d'armes par la France à Israël. J'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau par Skype Madame Aïssa Armidani, expert politique franco-syrienne. Ravie de vous retrouver, Aïssa.
Bonjour, bonjour à vous et puis merci de votre invitation.
J'ai également le plaisir de recevoir Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Bonjour, bienvenue Monsieur Rami.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, Assar, on commence tout de suite par vous. Alors, la France est sous pression pour suspendre ses ventes d'armes à Israël. C'est un débat très polémique. Livraison d'armes à Israël, mais le silence troublant toujours dans la France. Hier, je crois, c'était hier que le Quai d'Orsay a annoncé qu'il ne voit pas, qu'il n'a pas l'intention de cesser ses ventes d'armes vers Israël. Comment réagissez-vous ?
En fait, la France a des positions pro-israéliennes évidentes. On voit ça tout à fait dans les médias français. Il y a un parti pris qui était dès le début aux côtés d'Israël, qui tentait d'accuser les Palestiniens, qui voulait justifier le fait qu'Israël se défend, etc. Bien sûr, avec le temps et la montée des oppositions populaires, je dirais, aussi bien en France qu'en Europe, qu'aux États-Unis, dans le monde entier, le soutien populaire à la Palestine et aux Palestiniens, à la résistance palestinienne face à cette agression israélienne, a fait que la France commence à changer ou à être un peu plus prudente dans ses déclarations, peut-être dans ses actes, mais sous la pression quand même de certains partis politiques et de mouvements populaires en France. Je voudrais saluer justement les partis qui ont organisé cette délégation qui est allée jusqu'à Rafah pour exprimer sa solidarité avec la résistance palestinienne, avec Gaza, pour exiger qu'il y ait quand même une ouverture au niveau des passages pour faire passer des vivres et des aides alimentaires. Et puis donc qu'ils reviennent plaider en France aussi au sein de l'Assemblée nationale le droit des Palestiniens à la vie et à un cessez-le-feu immédiat. Bien sûr, il n'en est rien parce que la France, non seulement elle ne plaide pas le cessez-le-feu, mais en fait, elle prend par contre des distances par rapport à Israël et on espère qu'elle va, limiter ou diminuer les exportations les exportations d'armes à Israël qui continuent à affluer malgré tout et qui continuent à affluer malgré aussi la condamnation de la Cour internationale de justice. La France, elle fait pratiquement un peu comme si elle n'y était pour rien. Par contre, je voudrais saluer quand même le fait que la France n'ait pas participé aux côtés des Américains dans cette expédition contre le Yémen pour soi-disant garder la mer Rouge. Donc il y a effectivement des points positifs, des avancées, je dirais, positives de la politique française, mais l'exportation des armes continue et l'influence sioniste aussi dans les médias, elle continue. Bien qu'ils essayent de laisser une petite place un peu plus importante à ceux qui soutiennent les Palestiniens aujourd'hui dans les médias, mais ce n'est toujours pas assez et ce n'est toujours pas du tout à la hauteur de l'agression israélienne qui continue contre le peuple palestinien et surtout le génocide qui continue. Je voudrais dire aussi que la France, si ça continue comme ça, de toute façon, elle sera aussi accusée de génocide. Elle est déjà accusée. Et il y a déjà des procès contre la France pour génocide, pour complicité de génocide, hein, par plusieurs pays et par certains partis politiques et mouvements en France. Donc voilà, la France a intérêt à faire attention et à prendre le côté, la défense de la justice et du côté agressé et non pas continuer à défendre l'agresseur.
Merci Aïssar. Ahmad Rami, avec la France, alors vu les déclarations de Dr Midani, on voit toujours avec la France un pas en avant, deux pas en arrière. Alors à quoi vise cette persistance, cette insistance de la France pour continuer ses exportations, ses ventes d'armes controversées vers Israël, alors qu'on assiste à une campagne de génocide, au sens vrai du terme, au massacre des civils en cours dans la bande de Gaza, assiégés de toutes les façons et manières par Israël?
Je crois qu'il faut être aussi un peu précis. Il ne s'agit pas de la France. Ce n'est pas la France qui soutient Israël. C'est le gouvernement, les dirigeants qui, aujourd'hui, ont le pouvoir et qui viennent eux-mêmes du lobby sioniste qui domine la France et qui occupe la France politiquement. Si Israël, je l'ai toujours dit, c'est Israël occupe militairement la Palestine, ben, la politique du gouvernement français est le résultat de l'occupation politique d'Israël qui occupe les médias, qui occupe la politique, qui occupe les moyens de pouvoir en France. Donc il faut être précis, le peuple français, comme tous les peuples européens, a changé, a été maintenant ils ont découvert le vrai visage et la vraie nature de l'occupation sioniste. Tout le monde maintenant sait qu'il s'agit d'une occupation et que le peuple palestinien ne vise pas à occuper un autre pays ou à envahir un autre pays. Le peuple palestinien n'exerce que son droit légitime à la liberté, à la résistance contre une occupation illégitime, illégale. Donc, il faut être précis, il s'agit donc d'une occupation illégale exercée par l'entité suisse. D'ailleurs, Netanyahu lui-même, il ne vient pas de la Palestine. Tous les dirigeants israéliens maintenant viennent, sont des occupants qui viennent de l'étranger. Hein. Et maintenant, les gouvernements français, on voit tous les grands gouvernants qui décident ne viennent pas des Français, du fond du peuple français. Ils viennent de la banque de Rothschild, comme Macron. Ils viennent disons, comme le premier ministre, c'est un sioniste, c'est un sioniste homosexuel qui vient aussi du lobby sioniste juif. Donc il faut être précis à mon avis et non pas transformer ça en conflit entre la Palestine et la France. La France n'a rien à faire avec ça, c'est l'eau. La France elle-même résiste maintenant. Il y a des Français qui exercent leur liberté, leur droit de résistance politique en France contre la domination et l'occupation sioniste en France.
Merci beaucoup pour cette précision. Alors, Assar Midani, c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes humanitaires et militants et groupes d'opposition en France qui ont exhorté et encouragé le gouvernement français à cesser ses ventes et ses exportations d'armes. Alors, plusieurs entreprises françaises de défense sont accusées de complicité et de crimes de guerre en raison de ventes d'armes, pas seulement pour Israël, mais aussi autrefois dans la guerre yéménite. À destination des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, alors là aussi il y avait de débats controversés.
Tout à fait, il y a des groupes de prêts, il y a beaucoup d'associations françaises qui soutiennent la Palestine, qui soutiennent les Palestiniens. Et il y a aussi beaucoup de mouvements contre la livraison d'armes justement aux pays fauteurs de guerre. Hein. Notamment, c'était effectivement contre l'Arabie saoudite qui était la main armée des Américains contre le Yémen. Hein. Et puis, effectivement, contre la livraison d'armes aux Israéliens. Mais il faut dire aussi qu'en France, il y a un mouvement boycott des investissements sanctions qui est assez important parce qu'il a été lancé depuis quelques années. Et puis, il est assez important. On boycotte aussi les entreprises qui continuent à soutenir la Palestine, etc. Mais en fait, tout ça, c'est occulté par les médias, mais c'est aussi... il y a des pressions importantes pour ne pas le faire savoir et ne pas que le mouvement ne se propage pas. Ça, c'est clair que les médias sont complètement dominés par le lobby sioniste, comme l'a dit votre invité, et très justement. Mais c'est pareil, le lobby des armements, le gouvernement, il est complètement dominé par le lobby sioniste, et ce, depuis Sarkozy, en fait. Il ne faut pas oublier que l'arrivée de Sarkozy au pouvoir en France a favorisé énormément le sionisme politique, le poids du sionisme dans toutes les structures et dans toutes les actions politiques de l'État français. Donc ça, c'est aussi un point important qu'il faut dire. Le peuple, il est... alors il y a des partis qui cherchent effectivement à savoir la vérité par leurs propres moyens, en cherchant sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi, le poids des médias mainstream n'est pas à négliger par rapport aux autres qui n'ont pas beaucoup de temps ni nécessairement l'intérêt à chercher. Effectivement, cette offensive, je dirais, palestinienne pour la libération aujourd'hui et puis le 7 octobre du 7 octobre a clarifié pas mal le débat et puis a permis de faire savoir que d'abord d'une part que la guerre des Palestiniens, que les Palestiniens sont plutôt mènent une résistance pour libérer leur pays d'une occupation féroce qui dure depuis 75 ans officiellement, mais aussi beaucoup plus que ça, car avant, elle a commencé avec le mandat britannique, hein, et que les Britanniques ont favorisé effectivement cette création de l'État, de cet État fantoche israélien sur une partie de la Palestine qui a commencé à grignoter et qui maintenant ne veut rien entendre que la totalité de la Palestine. Donc ça, c'est aussi un côté important de cette opération qui a fait que effectivement beaucoup de clarifier le débat. Ce n'est pas contre les Juifs, ce n'est pas contre contre le, les... C'est pas l'antisémitisme comme certains qui ont voulu présenter, c'est islam contre juifs, etc. Là, c'est pas du tout ça, c'est une occupation. Et les Palestiniens mènent une lutte de libération nationale qui est tout à fait légitime et qui peut être et qui doit être une lutte armée, parce que sans ça, même selon la charte de l'ONU. Donc là, c'est beaucoup de Français ont découvert la réalité de ce combat à travers ce qui se passe actuellement, mais aussi donc de ce fait qu'ils soutiennent les Palestiniens. Et parce que ça a été une grande découverte pour eux face à une propagande sioniste et impérialiste qui présentait ces choses comme étant un conflit religieux, comme étant un conflit sur des petites zones sur lesquelles deux peuples se battent, etc. Non, c'est une véritable occupation qui nie toute la possibilité, qui nie toute existence du peuple palestinien au profit d'un colon, d'un occupant colon qui vient d'ailleurs et qui veut absolument expulser la population, voire la trucider, et d'où le génocide actuel.
Merci Assar. Monsieur Rami, alors évoquons ce verdict de la Cour internationale de justice, alors qui a ordonné à Israël à prévenir tout acte de génocide dans la bande de Gaza. Bien sûr, on a vu sans surprise le résultat, Israël qui ne le respecte pas. Cette décision de la Cour internationale de justice, pour nombreux experts, va au-delà d'Israël. Alors, pour ces experts, la décision provisoire met en évidence les obligations juridiques et politiques des pays en matière de prévention de génocide. Les défenseurs de cette cause affirment que les ventes d'armes et l'aide militaire pourraient être considérées comme une complicité de génocide et une violation du droit international. Donc, la France aussi est indirectement impliquée.
Normalement, l'entité sioniste, l'occupation sioniste israélienne s'en fiche totalement de l'opinion publique internationale et des institutions internationales et de l'ONU, car l'entité sioniste n'occupe pas seulement la France, n'occupe pas seulement la Palestine ou les États-Unis, ils occupent les États-Unis eux-mêmes, ils occupent la Suède. Ce n'est pas un hasard que tous les médias, par exemple en Suède, les grands médias en Suède, le plus grand journal, la plus grande maison d'édition, appartient à un sioniste. Il n'est pas français, hein. Il s'appelle Bonnier, il vient de l'étranger. Et la même chose en France, en Amérique, en Angleterre, partout, même en Australie, les médias qui forment, qui constituent qui constitue l'image de la situation, parce que l'idéologie c'est une image de la réalité, c'est pas la réalité, c'est une image de la réalité, et cette image est créée par les médias. C'est-à-dire que le français moyen, le suédois moyen n'a pas de contact direct avec l'histoire, avec la Palestine ou avec ce qui se passe dans le monde ou avec Trump ou avec Biden. Il se forme une image de Biden, de Trump et de la question palestinienne selon l'image que donnent les médias sionistes, gérés par les médias sionistes. Donc cette lutte de libération et de résistance est une lutte mondiale. Dans tous les pays, il y a des organisations nationales qui luttent pour la libération de ce pouvoir sioniste mondial qui occupe politiquement tous les pays, y compris les pays, les gouvernements arabes. Ils sont maintenant totalement paralysés, totalement ils ne disent rien, ils ne font rien, ils ne réagissent pas, alors que c'est un massacre ce qui se passe maintenant. C'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité, mais il n'y a pas de réaction. Hein. Donc, c'est une paralysie totale. Et cette paralysie, bien sûr, est imposée par l'image que donnent les médias sionistes sur la question palestinienne, sur la question mondiale dans tout le monde entier, où les sionistes, comme aux États-Unis par exemple, tout le monde sait que le AIPAC, c'est lui qui désigne le président aux États-Unis. C'est AIPAC, c'est le lobby sioniste juif israélien qui désigne le gouvernement américain, le président américain. On ne peut pas être président aux États-Unis si on n'a pas déclaré sa loyauté envers Israël. Voilà.
Oui. Alors, merci. Madame Idani, les rapporteurs de l'ONU ont souligné que tous les pays doivent veiller à ce que les parties au conflit armé respectent le droit international, le droit humanitaire, conformément aux conventions de Genève de 1949. C'est le droit international. Il est également noté dans ces déclarations que... Alors j'ajoute que la France avance une idée. Elle croit que mon objectif, je cite le Quai d'Orsay, mon objectif n'est pas, alors les civils, n'est pas participer dans la tuerie des civils. Mais indirectement, alors une telle vente aboutit à cette fin et la France devient un complice automatiquement.
Tout à fait. En fait, depuis le début, les Américains ont commencé à justifier vraiment ces tueries des civils en disant « Ah, mais ce sont des dommages collatéraux ». Et avec une telle densité de civils dans la région de Gaza, on ne peut pas essayer de s'attaquer au Hamas sans avoir des dégâts de civils. En fait, c'est complètement contre la vérité. Cet argument a été repris par les pays de l'OTAN qui sont qui obéissent à la propagande américaine et à tout ce que les médias, tous les médias mainstream, ils se prononcent d'une seule voix toujours. En fait, dans ces cas, ils sont toujours soumis aux Américains, soumis aux sionistes et font valoir la thèse sioniste. Bon, la réalité, c'est que c'est un véritable génocide. Cet état fantoche d'Israël vise à faire pression sur la résistance par le nombre de civils qu'il tue. Sinon, de toute manière, ce génocide, ils le veulent. Ils mobilisent pour tout, d'ailleurs. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont attaqué d'abord les journalistes, ceux qui transmettent l'image vers l'extérieur. Et il y a aujourd'hui pratiquement 130 journalistes qui sont tués dans ces 140 jours à Gaza par les Israéliens, visés directement par les Israéliens. Ce n'est pas par rapport à rien aussi que tous les hôpitaux ont été détruits, que Israël a détruit tous les moyens de vie. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas d'eau potable. Ils ont détruit les hôpitaux et donc pas du tout de pénurie de médicaments. Ils se sont attaqués aux cadres médicaux, tout ça. Donc l'objectif, c'est bel et bien un génocide. De manière à ce que même les personnes qui ne sont pas mortes par les bombardements directs, ils seront morts de maladies et de famine, parce qu'en même temps, ils interdisent aux aides alimentaires de rentrer par le passage de Rafah. Au jour d'aujourd'hui, il y a très peu, une petite quantité, quand ça rentre, il y a une toute petite goutte dans un océan de besoins qui rentrent, et en plus ils sont bombardés par les Israéliens, ils sont interdits d'aller vers le nord, interdits d'aller vers le sud, etc. Il faut quand même dire que les habitations et toutes les 75% des habitations des Palestiniens ont été détruites. Il y a aujourd'hui plus d'un million de personnes qui sont dans la rue, qui dorment sans aucune couverture. En fait, à l'air libre par ce temps glacial de l'hiver, car il fait un temps glacial en ce moment. Et si ce n'est pas un génocide, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Je vous remercie.
Et que malheureusement, les pays européens comme les pays comme les États-Unis continuent à couvrir ces crimes. et à être solidaire directement ou indirectement.
Merci beaucoup.
Je parle pour la France.
Merci beaucoup, Aïssar Midani et Ahmad Rami, d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Au revoir. À la prochaine.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. L'origine de l'origine. Un amoureux était en train de décrire à sa bien-aimée tout ce qu'il avait fait pour elle. « J'ai fait beaucoup de choses pour toi. Par ta faute, j'ai été la cible de beaucoup de flèches. Mes biens se sont envolés et ma dignité en même temps. Combien j'ai souffert par amour pour toi. Il n'y a plus ni soir ni matin pour m'apporter le sourire. » Ainsi faisait-il la liste des breuvages amers qu'il lui avait fallu absorber. Il ne faisait pas cela dans le but de culpabiliser sa bien-aimée, mais plutôt pour lui prouver sa sincérité. Car la soif des amoureux ne comble aucun instinct. Sans se lasser, il décrivait ses peines. Comment un poisson pourrait-il se lasser de l'eau? Quand il avait fini de parler de ses déboires, il a ajouté « Et je ne t'ai encore rien dit. » Il était comme la chandelle qui ignore sa flamme et fond en larmes. Sa bien-aimée lui répondit « C'est vrai, tu as fait tout cela pour moi. Mais maintenant, prête-moi l'oreille et écoute ceci. Tu n'es pas allé jusqu'à l'origine de l'amour. Et tout ce que tu as fait n'est que peu de chance. Dis-moi, quelle est donc cette origine? C'est la mort, la disparition, l'inexistence. Tu as tout fait pour prouver ton amour, sauf mourir. À cet instant même, l'amour rendit l'âme dans la joie, et cette joie lui resta éternelle. La corde au cou. Un homme prétendit un jour être un prophète supérieur à tous les autres. On lui passa une corde au cou et on l'amena devant le sultan. Curieux de connaître l'origine de cette aberration, la foule se rassembla ainsi qu'une fourmilière. Si la pauvreté est un signe de prophétie, disaient les gens, alors nous sommes tous prophètes. Nous sommes bien tous semblables et nous sommes tous également venus de l'autre monde. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? Il y a une chose que vous ignorez, répondit l'homme. Vous êtes venus sur terre par décision du destin, mais vous avez voyagé dans l'ignorance, comme un enfant qui dort, inconscient des étapes. Vous avez traversé bien des contrées, dans l'ivresse ou dans le sommeil. Vous n'avez rien su du chemin du haut et du chemin du bas. Nous, nous avons parcouru l'univers avec nos cinq sens et dans les six directions, éveillés et joyeux. Nous avons vu l'origine et la finalité, car nos guides connaissaient bien le chemin. Le peuple demanda au sultan de torturer cet homme afin de faire un exemple. Mais le sultan remarqua que l'homme était si maigre qu'une simple chiquenote l'eût assommé. Son corps en était presque transparent. Le sultan se dit alors qu'il valait mieux essayer la douceur, car un langage tendre fait sortir le serpent de son repère. On fit évacuer le peuple et le sultan, plein de patience et de douceur, lui demanda d'où il venait et s'informa de ses conditions de vie. « Ô sultan, répondit l'homme, ma maison, c'est le pays du salut et ma direction, c'est le pays du blâme. Je n'ai ni demeure ni ami. Comment un poisson pourrait-il habiter sur la terre ?» Pour le taquiner, le sultan lui demanda « Quel est ton plat préféré ?» Puis, qu'as-tu donc bu pour être ainsi ivre de bon matin ? Si j'avais du pain, répliqua l'homme, je ne prétendrais pas être un prophète. Prophétiser devant un tel sultan est comme attendre qu'une montagne fasse preuve de cœur. La seule chose que la montagne puisse faire, c'est de renvoyer les mots qu'on lui adresse. Et ce faisant, elle se raille. Il ne sert à rien de parler de la vie à un cadavre, mais parle d'or ou de femme, et tous te suivront sans même prendre garde à leur existence. Dis leur, une belle femme est amoureuse de toi. Va, elle t'attend. Aussitôt, ils courront dans la direction que tu leur indiques. Mais si tu parles le langage de la vérité et dis, dans cet univers éphémère, préparons-nous à l'univers de la vérité. Qu'importe l'éphémère puisque l'éternité est possible. Sache alors qu'ils voudront te tuer et ne crois pas qu'ils fassent cela pour protéger leur religion. Le sultan demanda : qu'est-ce que la révélation ? Quel bénéfice un prophète tire-t-il de ses activités ? « Tout ce que dit un prophète finit par arriver, » répondit l'homme. « Peut-il exister un royaume qui ne désire pas se joindre à lui ? La révélation d'un prophète, sans même parler de moi, veut bien l'inspiration dans le cœur d'une abeille. La révélation que Dieu a faite à l'abeille a rempli sa demeure de miel. Par sa révélation, Dieu a rempli l'univers de miel. » Et comme l'homme possède la lumière du cœur, sa révélation ne saurait valoir moins que celle d'une abeille. Rêve. Une nuit, un derviche, retiré dans sa cellule, fit un rêve. Il vit une chienne qui était pleine et entendit les aboiements des chiots. Cela lui parut très étrange. Comment ces chiots peuvent-ils aboyer avant même d'être nés ? Se demanda-t-il. Personne en ce bas monde n'a jamais entendu parler de semblables choses. À son réveil, sa stupéfaction ne fit qu'augmenter. Et comme il était seul dans sa cellule et que personne ne pouvait l'aider à percer ce mystère, il s'adressa à Dieu. « Ô Seigneur, je suis frappé de stupeur devant cette énigme. » Du monde de l'inconnu parvint cette réponse. Ce rêve est la représentation du discours des ignorants. Car il parle alors qu'ils ne sont pas encore sortis des voiles qui les entourent. Leurs yeux sont fermés et ils bavardent inutilement. C'est aussi vain que l'aboiement d'un chiot dans le ventre de sa mère. Il aboie, mais il ne sait même pas ce que c'est que le gibier, ni ce que c'est que monter la garde. il n'a encore vu ni loup ni voleur. Le désir de se mettre au premier plan aveugle les ignorants, et leurs paroles sont téméraires. Ils décrivent la lune sans l'avoir vue et vendent l'air à leurs clients. Cherche des clients qui te cherchent vraiment. Ne te préoccupe pas de n'importe lequel d'entre eux, car il est mauvais d'être amoureux de deux bien-aimés.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.